Bien, c'est tout un privilège pour moi d'être avec vous ce soir. J'ai parlé avec mon épouse tantôt qui vous envoie ses salutations. On ne s'est pas vu depuis 2 semaines. J'étais à la maison pendant qu'elle était au Tennessee pour un mariage et on s'est rencontrés à l'aéroport Montréal. Je lui ai donné un bisou, puis un auto, puis elle est partie pour Trois-Rivières, puis moi je suis parti pour ici. Mais on va savoir à un moment donné. Mais je le rappelle de temps en temps pour qu'elle se souvienne que je suis son mari. Pourquoi parler de la colère? Vous savez que j'ai une formation de comptable, puis comme comptable, on fait des... Au Québec, on appelle ça des vérifications. Ici, je pense que vous appelez ça des audits, si j'ai bien compris. Et j'ai fait ça beaucoup de ma vie, puis... des fois, ça fait du bien de faire des audits dans nos propres vies. Et il y a 3 ans, j'ai réalisé que peut-être que je manquais de sagesse dans ma vie. Pourtant, je lis le livre de Proverbes depuis très longtemps. Un jeune homme, un des anciens de mon église, me dit qu'il fallait lire 31, il fallait lire le livre de Proverbes tous les mois. 31 chapitres dans le livre de Proverbes, 31 jours dans un mois. Et depuis plus de 50 ans, presque toujours, je lis un chapitre de Proverbes chaque matin. Mais c'est une chose de le lire, c'est une autre de toujours le mettre en pratique. Alors, je l'ai décidé de regarder comme faux quels sont les sujets dans le livre de Proverbes écrit par Salomon, qui au moins a commencé par être sage. Quels sont les sujets qui touchent à la sagesse dans notre vie? C'est quoi la sagesse? Et j'ai été surpris que la sagesse touche beaucoup de domaines dans notre vie. La colère, et je viens d'une famille colérique, beaucoup, beaucoup. J'ai un frère qui a fait de prison pour le meurtre. J'ai des beaux-frères qui ont fait de prison pour le meurtre. Mon père a fait de prison pour la violence envers sa propre famille. Je pense que je suis probablement un homme qui est capable d'être en colère. Et j'ai appris que pour être sage, il faut comprendre et contrôler sa colère. Et il y a d'autres sujets. Je regardais avec surprise que j'étais très surpris de voir que dans le livre de Proverbes, on ne peut pas être sage sans des amis. Pas d'amitié, pas de sagesse, parce que c'est par nos amis qu'on apprend. Et l'envie, il y en a d'autres sujets aussi. Alors, par recherche personnelle pour moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à regarder les questions de colère, et avec votre permission, et selon la suggestion des frères ici, je leur ai donné 4 ou 5 sujets, ils ont choisi le colère, et je vois que Nathanaël a envoyé son épouse, ça doit être parce qu'elle est colérique, je ne sais pas. La tradition au Québec, c'est quand le prédicateur va être bien plate, on envoie son épouse dimanche soir, alors ça doit être ça. C'est difficile, dans le livre de Proverbes, de tourner dans un chapitre, puis le lire, puis l'exposer le chapitre. Vous savez que dans le livre de Proverbes, les sujets sont un peu dispersés, éparpillés ici et là dans le livre. Et alors ce soir, au lieu de lire un chapitre dans le livre de Proverbes, nous allons lire une série de versets sur la colère dans le livre de Proverbes. Et je vais le mettre sur l'écran pour ne pas qu'on soit obligé d'attendre 3 minutes pour chacune des versets. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Si on pourrait apprendre ça dans nos assemblées. Celui qui est lent à la colère vaut mieux que Néron, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il se met sa gloire à oublier les offenses. Je vais le relire, la dernière phrase, bien important. Il se met sa gloire à oublier les offenses. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu la libères, tu devras y revenir. Ne témoigne pas la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tremper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Puis enfin, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Bien, c'est quoi la sagesse? On sait que Salomon, qui est l'auteur du livre de Proverbes, au moins les 29 premiers chapitres, Salomon a demandé au Seigneur de recevoir la sagesse au début de son règne, et cela a beaucoup plu au Seigneur. Salomon a quand même fait des choses bien. Malheureusement, sa sagesse n'a pas été exemplaire dans toute sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Puis, il a carrément manqué de sagesse vers la fin de sa vie. Ça a mal fini sa vie parce qu'il n'a pas mis en action dans sa vie la sagesse qu'il avait quelque part dans sa tête. Mais quand Salomon a demandé à recevoir la sagesse, il a demandé de discerner le mal du bien. Et c'est bien ça, mais la sagesse, c'est encore plus que discerner le mal du bien. Parce que la difficulté, c'est que nous faisons très souvent face à des questions qui ne sont pas résolues par les règles de la moralité. Jeune homme, j'ai pris les 10 commandements par cœur. Ça faisait partie de l'école du dimanche quand j'étais petit garçon. Et c'est bien, c'est très bien. Ce sont des indications d'une vie morale qui sont bien. Mais il y a beaucoup de domaines dans notre vie qui ne sont pas touchés par cela. En effet, je veux vous donner des exemples. À qui se marier? Avec qui qu'on doit se marier? Il n'y a pas un verset dans la Bible qui nous dit « Tu choisiras une femme avec des cheveux rouges et vous choisirez une femme qui est telle grandeur, puis telle forme, puis... Non, la Bible nous donne certaines indications avec qui on doit se marier, mais ça demande la sagesse pour choisir la bonne femme, puis le bon mari aussi. Beaucoup de sagesse. À quelle école je dois assister? Il n'y a rien dans la Bible, ou dans la loi, ou dans la moralité qui me dit ça, mais quand même, ça demande une décision qui demande la sagesse. Quel métier que je dois pratiquer? J'ai un jeune homme qui est venu me voir dernièrement, puis il étudie à l'université, puis il veut aller faire une maîtrise en philosophie. Puis moi, je lui ai posé la question, j'ai dit, combien ça va vous coûter de faire 4 années au niveau, nous autres, on appelle ça la bac, puis après 3 ans ou 12 ans et demi pour un master's, une maîtrise, puis ça va prendre combien de temps, ça va coûter combien? Puis on a fait des calculs, puis je dis, vous allez gagner combien avec ça? Quel travail que vous allez avoir avec ça? Puis, je l'ai invité à la sagesse, n'est-ce pas? C'est pas dans la Bible, c'est pas dans la loi, c'est pas dans la moralité. Est-ce que je dois changer d'emploi? Avec qui je devrais me mettre en affaire? Alors, la sagesse, on peut le définir comme ceci, nous permet de vivre et de prendre des décisions lorsque les règles de la moralité ne nous aident pas. Okay? Et le livre de Proverbes nous donne de la sagesse dans beaucoup de domaines de notre vie. Et parmi les enseignements dans le livre de Proverbes, c'est que si nous voulons vivre sagement, nous devons comprendre et bien contrôler la colère chez nous et chez les autres. Voilà le thème de ce qu'on va dire ce soir. J'ai 4 choses à dire sur la colère. D'abord, on va parler de sa puissance dangereuse. C'est vraiment, la colère est dangereuse. Deuxièmement, on va parler de sa capacité pour faire le bien. Et c'est peut-être un peu paradoxal, n'est-ce pas, qu'en même temps, la colère est une puissance dangereuse, mais aussi, elle a la capacité pour le bien. Et troisièmement, si cela est vrai, si la colère a la capacité pour le bien, pourquoi est-ce que si souvent, dans nos vies et dans notre société, ça tourne mal? Et quatrièmement, nous allons regarder comment contrôler la colère. Commençons par sa puissance dangereuse. Nous n'avons pas besoin de tourner loin dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Nous n'avons pas besoin de lire pendant 3 heures dans les premières pages de la Bible pour voir les effets de la colère. N'est-ce pas que Caïn a tué son frère Abel? Puis quelques versets plus tard, nous avons Lamech qui s'avance, qui a tué quelqu'un. Puis on avance dans le livre de Genèse, puis on voit deux frères, est-ce que c'est Siméon et Lévi, je pense que oui, qui ont détruit un village, qui ont passé tous les villages à l'épée, dans une crise de colère, et ils avaient raison de ne pas être contents, on a déshonoré leur sœur, mais on a utilisé leur religion, la circoncision, pour affaiblir les hommes dans le village. Puis à ce moment-là, ils ont attaqué le village, puis ils ont détruit tout un peuple. Au point que leur papa, Jacob, leur a dit, « Vous êtes en train de ruiner notre réputation dans tout le pays. » La colère, le mal que cela a fait. Regarde Balaam. Regarde Hérode le Grand. La colère. Regarde Jézabel puis Achab. La colère, le pouvoir de détruire. D'abord, elle peut détruire notre propre corps. Deuxièmement, elle peut détruire notre communauté, notre place de travail, notre église locale, notre famille. La colère peut détruire notre capacité de prendre de bonnes décisions. Et la colère peut détruire notre volonté. Puis on va regarder chacun de ces points-là plus en détail. Détruire notre propre corps. J'aime beaucoup les versets que nous avons lus. Nous allons les considérer chacun individuellement à travers notre étude ce soir. Le verset nous dit que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Mon médecin, le médecin pour notre famille, était une chrétienne avec beaucoup d'années d'expérience. Non seulement un bon médecin, mais une femme de Dieu. Puis j'ai parlé de ce verset-là, puis elle dit, Doug, elle dit, j'ai l'impression comme médecin qu'une crise de colère demande plus d'énergie au corps que courir pendant 5 kilomètres. C'était un peu sa réaction qu'elle a eue. Puis c'est vrai, dans ma propre vie, je sais que mon cœur bat plus fort quand je ne suis pas content et si j'exprime ma colère que si je fais un peu d'exercice. En effet, la colère détruit le corps, provoque des émotions, des hormones, puis nous fait mal. J'ai écrit que la colère affecte plus le corps que l'anxiété ou l'exercice physique extrême. Deuxièmement, la colère détruit notre communauté. Nous avons lu tantôt, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Puis cela est vrai. Le Seigneur nous a donné une bouche, puis une langue. Puis on peut faire du bien avec notre langue, puis on peut faire du bien avec notre bouche. Notre Seigneur Jésus s'est souvent ouvert la bouche, puis c'est des bonnes paroles qui sont sorties de sa bouche. Mais comme nous sommes en colère, notre langue devient une épée. Puis on détruit tout le monde autour de nous. Puis nos paroles deviennent des armes pour détruire. Il y a quelques années, j'ai rencontré mon oncle. Mon père a été élevé dans des assemblées à Toronto, des assemblées très, très sévères. Et il était rebelle toute sa vie. J'espère que je vais les voir au ciel un jour, je ne suis pas certaine. Mais son frère, voilà trois ou quatre générations, c'est tous des grands prédicateurs de côté de mon père. Eh? Et mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, en Angleterre, puis ensuite dans la région de Toronto. Et le frère de mon père qui vit encore, c'est quand même un homme de Dieu, un ancien dans une église, un évangéliste, prédicateur. Et j'étais avec lui une fois, puis on discutait de quelque chose, puis j'ai donné mon opinion un peu façon extrême. Puis il dit, tu es comme ton père. Il dit, ton père était capable, puis mon père était quand même 15 ans plus vieux que mon oncle Harold. Il dit, ton frère avait une langue qui pouvait me détruire et m'assassiner dans deux phrases. Puis j'ai respecté mon grand frère. Mon oncle est petit, mon père était plus grand que moi, puis un officier dans la marine, puis bâti, au Québec on dit bâti comme un frigidaire, bâti comme un frigo, il était comme ça. Puis il dit, Tu as la langue de ton père, fais attention. Ça m'a parlé. Nous détruisons nos relations. Ça, c'est vrai. Quand on est en colère, on fait mal aux autres. Puis nous ne pouvons jamais reprendre les paroles et nos gestes lorsqu'on est en colère. Une des difficultés dans notre société, dans l'Internet, c'est le fameux email, puis le Twitter, puis toutes ces choses-là. Et il m'est arrivé quelquefois d'envoyer un email, puis peser sur envoyer, là, puis 5 secondes après, dire s'il y avait un bouton pour le reprendre, cet email-là. Et voilà nos paroles, on les prononce, puis on n'est pas capable d'aller les rechercher, puis les rentrer dans notre bouche, puis les envahir encore. Puis on fait mal. Nous ne pouvons jamais réparer les relations brisées par notre colère. Troisièmement, nous avons vu que la colère nous détruit notre capacité de prendre des bonnes décisions. Proverbe 14 nous dit ceci, verset 29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui prend à s'emporter proclame sa folie. » Intéressant, lent à la colère, intelligence, prend à la colère, folie. Parce que la colère distord notre vision du monde et de nous-mêmes et des situations des autres. Quand on est en colère, on voit pas, on ne raisonne plus. On ne voit pas les choses comme elles sont vraiment. Puis notre vision de la situation vient toute distorsionnée. La sagesse nous aide à prendre de bonnes décisions. La colère nous fait prendre des choix stupides et destructeurs. Vous vous souvenez de l'histoire de Nabal, qui était l'homme riche, qui avait des troupeaux. Puis David, qui avait protégé ses troupeaux, a demandé à Nabal un peu de nourriture pour ses hommes. Puis Nabal s'est emporté, puis il est mort. Mort d'une crise. C'est bien Nabal son nom?
Nabal.
Merci. Mais c'est ça. Dans la colère, il a pris une décision stupide, puis ça a coûté sa vie. Et enfin, qu'est-ce qui est encore pire, c'est le colère répétée, qui devient une habitude, détruit notre volonté. Ce verset que je vais lire m'a troublé, m'a posé m'a embêté. Celui que la colère emporte doit y subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Je l'ai regardé dans plusieurs traductions, dans différentes langues. J'ai essayé de mettre le petit hébreu que j'ai à mon aide. Puis je viens de la conclusion, c'est que quand on libère la colère, ça revient, ça devient une habitude. J'ai écrit ici que la colère est comme une drogue qui crée la dépendance plus que toutes les autres émotions. Puis ça, c'est vrai. Depuis 3-4 ans, j'observe. L'amour est une émotion. Puis, dans un sens, l'amour, il y a une certaine dépendance. Moi, je dépends beaucoup de mon épouse, en tout cas. Mais une dépendance, si je comprends l'expression, ceux qui prennent la drogue régulièrement, mais ça devient une dépendance. Ceux qui fument la cigarette et qui voudraient arrêter, c'est une dépendance, puis on n'est pas capable d'arrêter, n'est-ce pas? Et de toutes les émotions que nous vivons, l'émotion qui crée une dépendance plus que les autres, c'est la colère. Puis nous nions, puis nous refusons d'admettre notre colère. Je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué. Je ne suis pas vraiment en colère. Je veux seulement me défendre. Je recherche seulement la justice. Moi, je parle franchement. Je me souviens que j'étais avec un Québécois. Le Québec a été évangélisé beaucoup par les assemblées. Au Québec, qui était 99,9,9,9% catholique et très opposé à l'Évangile. Je ne sais pas si vous réalisez tous que dans l'Assemblée qui est 30 km de chez moi, où je vais prêcher à l'occasion, dans les années 50, ils ont renversé les autos des chrétiens dans les rues et ont mis le feu. Et c'était vraiment là. Il y a des missionnaires de l'Ontario qui sont venus annoncer l'Évangile, qui ont été kidnappés. Puis on les recouvre de goudron, puis on met des plumes. Puis on les a mis sur un train, puis on les a envoyés. Puis on a dit, reviens pas. Heureusement, cet homme-là est revenu, puis aujourd'hui, il y a des églises dans cette région-là. Alors, les assemblées des frères, c'était vraiment les premiers missionnaires au Québec. Et le Seigneur a envoyé des hommes au Québec qui étaient doux. Moi, j'ai travaillé avec ces hommes-là quand j'avais 21 ans quand je suis arrivé comme jeune missionnaire au Québec en 1968. Puis j'ai travaillé avec un homme, M. Norman Buchanan. Je ne l'ai jamais vu, j'ai travaillé avec lui 40 ans, je ne l'ai jamais vu choqué. Je ne l'ai jamais vu dire un mot plus haut que l'autre. Puis les Québécois, excusez-moi Claudine, les Québécois, surtout les hommes, pas les femmes, s'emportent, puis ils partent, c'est fort. Puis à cause de personnes comme M. Buchanan et d'autres, ces Québécois-là avaient l'impression que tous les Anglais étaient toujours calmes. Puis que jamais qu'un Anglais se choquerait, puis c'était pas vraiment des vrais hommes. Parce qu'un vrai homme, tu comprends. Puis je me souviens que j'avais une discussion avec un gars, puis il dit, « Moi, je suis pas comme les Anglais. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis franchement. Je suis pas choqué, là, mais je dis franchement. » Puis là, bang, 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 sur la table. Puis voilà, on dit qu'on est en colère. Et plus que je me mets en colère, plus qu'il y a des problèmes dans ma vie. Si j'ai une habitude, une réputation de me mettre en colère, ma vie est remplie de problèmes. Puis les problèmes s'ajoutent. Et plus que je me mets en colère, plus qu'il y a des relations brisées. Ça détruit notre volonté. Puis en plus, nous croyons que nous ne sommes pas responsables de ces situations. Puis ce qui arrive, c'est que quand une situation est arrivée, puis peut-être que je suis responsable de la situation à 5% ou 10% ou 50% ou 75%. Dans notre colère, on ne veut pas admettre cela. Dans notre colère, on dit « c'est pas ma faute ». Puis, comment que je peux réagir contre les personnes, mais si je n'admets pas que je suis en partie au moins responsable de la situation, mais je me mets encore plus en colère. J'ai un mot à dire ici. En Amérique, en tout cas, il y a quelques années, lorsque mon garçon était jeune bébé, c'était populaire dans certains livres de dire que quand un enfant est en colère, vous l'envoyez dans sa chambre et vous dites « Frappez fort sur l'oreiller, défoulez-vous, sortez votre colère, puis là, il va se calmer après. » C'était pas mal à mode, populaire comme idée, pas nécessairement toujours parmi les chrétiens, mais parfois, malheureusement, mais certainement dans le monde séculier, des experts des enfants, les psychologues disaient cela. Il y a une lettre dans un journal américain, il y a quelques, peut-être voilà 2 ans, qui m'a frappé. Il y a madame qui répond à des lettres à des personnes qui décrivent leur situation familiale puis demandent des réponses. Il y a une femme qui écrit, puis c'était édité dans le, publié dans le journal, édité dans le journal. Puis la femme a dit ceci, « Quand mon mari a été petit, on lui a montré à se défouler sa colère. Et hier, il a pris une chaise dans la cuisine, puis il l'a jetée par-dessus la fenêtre de la maison. Et la fenêtre était fermée. Il dit, ce matin, mon mari s'est choqué, il s'est mis en colère, puis il a donné des coups de pied forts à mon garçon de 4 ans. Elle dit, cet après-midi, les autorités sont venues chercher mes enfants. Voilà les résultats, elle dit, d'une famille où on enseigne aux enfants, c'est de défouler en donnant des coups sur les oreillers. Aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux, je pense, qu'est-ce que Proverbe enseigne sur ce sujet-là. Mesdames, messieurs, ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, moi, mes enfants, mon fils est plus grand que moi, puis ma fille est plus intelligente que moi, au moins elle est convaincue de cela. Mais j'ai plus à l'élever, 37 ans, puis 41 ans, mais j'ai des petits-enfants qui sont, heureusement, mes petits-enfants sont nés sans péché, puis elles sont parfaites, surtout les filles. Mais qu'est-ce que j'ai dit ici? Ah. Ne permettez pas à vos enfants de développer des habitudes de colère. Vous savez que les enfants montent à maturité, ce sont des enfants, ça passe. Il y a des leçons qu'ils n'ont pas compris. Puis il faut toujours, comme parent, distinguer entre un manque de maturité puis la rébellion. C'est pas toujours facile. On peut jamais supporter la rébellion. On comprend mieux un manque de responsabilité, un manque de maturité. Mais si on ne corrige pas les crises de colère chez un jeune enfant, on va ravasser les problèmes plus tard. C'est quelque part entre 18 mois puis 4 ans qu'il faut régler ça. Puis si on ne règle pas à cet âge-là, ça va aller mal plus tard. Puis plus tôt qu'on commence, mieux que ça va être. Régler les problèmes de colère chez l'enfant. Puis maman et papa, réglez les colères chez vous. Si vous vous mettez en colère avec votre enfant, et si vous le corrigez en colère, puis ça c'est particulièrement vrai pour les papas, mais parfois pour les mamans aussi, si vous êtes régulièrement en colère avec votre enfant, il y a deux choses qui vont arriver, puis ça va dépendre de la personnalité de l'enfant. Il y a différentes personnalités des enfants, mais voici deux choses qui arrivent fréquemment. Si l'enfant est fragile et vous vous mettez en colère avec lui, vous allez l'écraser. Et moi, j'ai vu des enfants écrasés. J'ai travaillé 45 ans dans la même église locale, dans le travail pastoral. Puis je vous dis qu'un enfant qui est traité avec par la colère régulièrement, qui est écrasé, ça fait des grands problèmes plus tard dans leur vie. Ou bien, si l'enfant a une personnalité forte, vous allez en faire un rebelle. Et ça, là, j'en ai vu de ça aussi. Des enfants qui sont devenus très, très rebelles parce qu'ils ont été constamment les victimes d'un papa qui se mettait en colère. Si vous ne pouvez pas corriger votre enfant dans la colère, sans être en colère, mais envoyez votre enfant dans la chambre pour 5 minutes, isolez-le, asseyez-vous, calmez-vous, puis après ça, vous faites votre affaire. Vous me suivez, là? Si vous corrigez votre enfant dans la colère, là, c'est terrible. La colère, mettons sa capacité pour le bien. Paradoxe. Proverbe 16, 32 nous dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux que Néron, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Ça m'arrive des fois, après avoir étudié, que je me couche, puis pas capable de dormir. Ça, c'est un signe de vieillesse, peut-être. Et j'ai beaucoup médité ce verset. Vous savez, celui qui l'a écrit, c'est Salomon. Et Salomon était élevé dans le palais de son papa, entouré d'héros. Lisez certaines portions dans le livre de Roi. Et ça parle des héros qui entouraient David. Un homme qui a sauté dans une fosse avec des lions. Un autre homme qui a tué des centaines de personnes tout seul avec une épée. Des hommes qui ont pris des villes. Imaginez-vous des hommes tellement braves qu'ils... Ils attaquent une ville entourée de murs, puis ils montent les murs, c'est dangereux, puis ils prennent des villes. Puis Salomon, le papa de Salomon, David, était un héros. C'est quand même lui qui a tué Goliath. Et Salomon, qui a vécu avec ces héros-là, qui les a connus, il dit que celui qui est là, la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. L'idéal dans la Bible, ce n'est pas jamais de colère, pas de colère, mais l'idéal, c'est lent à la colère. Puis c'est différent. Paul nous dit ce verset, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Mon épouse m'a déjà dit, « Mais vous, quand vous vous mettez en colère, vous péchez toujours, vous. » Alors, c'est un péché de ne jamais être en colère, mais c'est un péché d'exploser de colère. Est-ce que j'ai la permission de citer quelques pères de l'Église ici? Je le fais quand même. Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, a dit ceci. C'est mon père d'Église préféré, Jean Chrysostome. C'est lui qui avait des problèmes de diction, qui ne pouvait pas bien énoncer quand il prêchait. Et il a rempli sa bouche de cailloux, puis il est allé sur le bord de la mer, puis il a pratiqué ses sermons en prêchant sur le bord de la mer avec des cailloux dans sa bouche pour développer son allocution. Je pense que je vais le faire, moi. J'aurais besoin de ça. Lui a dit ceci, « Celui qui est en colère sans cause pêche. » celui qui ne se met pas en colère quand il a une bonne cause pêche, car une patience irraisonnable est la racine de beaucoup de vices. N'oublie pas qu'être lent à la colère est un attribut de Dieu. C'est ainsi qu'il a déclaré son nom à Moïse. Vous connaissez peut-être l'histoire, vous l'avez peut-être, ça vient peut-être à votre esprit, cette histoire, quand Moïse, qui avait sorti les enfants d'Israël sous la main de l'Éternel, il est rendu dans le désert, il s'approche de la montagne de Sinaï, il monte dans la montagne, il reçoit les deux tablettes de pierre avec les 10 commandements inscrits, puis il descend de la montagne, puis les enfants d'Israël sont déjà en train d'adorer une idole. Et si j'ai bien compris le passage, l'immoralité était toujours pratiquée lors de l'adoration de ces idoles-là. Il se met en colère, Moïse, puis il brise les deux tablettes de pierre. Ça ne juge le peuple. Puis Moïse dit à Dieu, puis si je peux paraphraser un peu qu'est-ce qu'il dit, « Dieu, je ne sais pas qui tu es. Je t'ai vu agir, Dieu, quand tu m'as parlé dans la buisson ardente. Je t'ai vu opérer 10 plaies en Égypte, puis sortir ton peuple d'Égypte et ouvrir la mer Rouge. Mais j'ai vu que tu as noyé, détruit l'armée de l'Égypte pour nous sauver. J'ai vu le pilier de feu, puis le nuage et tout cela. Mais si je vais conduire ce peuple qui est un peuple désobéissant, c'est évident, peuple qui murmure, puis encore l'idolâtrie dans leur cœur, il faut que je sache qui tu es. Révèle-toi à moi, Seigneur. Puis Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir et vivre, mais il a pris Moïse, puis il l'a caché dans le creux d'un rocher, puis il l'a passé devant lui, puis il a proclamé son nom, puis il a dit, je suis là à la colère. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à Moïse. Puis Moïse, qui n'avait pas toujours été là à la colère dans sa vie, puis Moïse était rassuré qu'il pouvait conduire le peuple de Dieu en sachant que Dieu était un Dieu qui était là à la colère. La colère, mes amis, c'est la réaction normale lorsque ce que nous aimons est attaqué. Mon garçon a 3 petites filles, 4 ans, 8 ans, 10 ans. Je les aime beaucoup. Mon épouse leur donne des leçons de musique, puis ils sont chez nous au moins 3 jours par semaine, 3 parties de journée par semaine. Les filles passent une nuit par semaine chez nous parce qu'on veut donner un petit break à leur maman. Et je les aime beaucoup. Fais mal à mes petites filles, là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Dernièrement, à Trois-Rivières, il y a une jeune fille de 8 ans qui a été kidnappée par un homme terrible, puis qui l'a abusé puis l'a tué. On a découvert son corps quelques années après. On vient d'identifier c'est qui l'a fait. Puis, j'aurais des suggestions de qu'est-ce qu'on pourrait faire à cet homme-là. Un homme qui kidnappe et abuse puis tue des petites filles innocentes. Alors, devant ce genre de choses-là, c'est normal. La colère, c'est la réaction normale lorsque ce que nous aimons est attaqué. Puis si on n'est jamais choqué, c'est parce qu'on n'aime rien, hein? C'est clair. Et ça nous aide quand même à voir que si Dieu est un Dieu d'amour, il faut nécessairement qu'il soit aussi un Dieu qui se met en colère. Et des fois, on parle avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, puis ils vont s'objecter, mais Dieu est un Dieu de colère, puis non, c'est un Dieu d'amour, puis ils ne veulent pas accepter que Dieu peut punir le péché. Non, Dieu est un Dieu d'amour, puis si on est amour, si on aime, il faut nécessairement aussi avoir une certaine colère dans notre vie. La colère n'est pas l'opposé de l'amour, c'est pas vrai cela. L'opposé de l'amour, c'est la haine. Et la forme ultime de la haine, c'est l'indifférence. Et la colère est opposée à l'indifférence. Pensons à notre réaction quand celui que nous aimons est brisé par quelqu'un ou par une mauvaise relation. Puis on peut se dire ceci, si nous, qui sommes quand même centrés sur nous-mêmes, et nous sommes égoïstes dans une certaine mesure, chacun de nous, certains plus que d'autres, et nous qui sommes égoïstes, lorsque nous nous mettons en colère quand celui que nous aimons est blessé, que devons-nous penser d'un Dieu qui aime parfaitement? Puis réalise que quand quelqu'un attaque ses enfants, le Seigneur se met en colère aussi. Alors, la colère, c'est l'amour en action contre ceux qui menacent, contre ceux qui menacent ce que nous aimons. Et, chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ était, j'ai écrit souvent en colère, peut-être que j'aurais dû marquer, était parfois en colère. Et dans le temple contre les échangeurs d'argent, il était en colère. Il a pris une fois, puis il les a sortis dehors. Puis il faut comprendre que c'était des voleurs, c'était des personnes qui étaient à, qui travaillaient pour les Sadducéens particulièrement. Et vous savez que dans le temple, c'était défendu de faire une offrande, de mettre l'argent dans la tranche, de faire une offrande, de payer les taxes du temple aussi qui existaient, avec de l'argent qui portait l'image de César, parce que ça, c'était l'idolâtrie. Donc, on avait frappé une monnaie pour le temple. Puis, il fallait faire notre offrande avec la monnaie du temple. Alors, les personnes qui arrivaient de l'extérieur, puis il n'y avait pas d'argent du temple, mais il fallait qu'ils échangent leur argent au temple auprès de ces échangeurs d'argent. Quand j'ai décidé de venir en Suisse, j'ai changé des dollars canadiens en dollars en francs suisses. Et j'ai cherché le meilleur taux d'échange. Puis j'ai appris dans ma vie de ne pas aller à l'aéroport avec les petites boutiques là, pour qui changent l'argent parce qu'ils chargent cher, un taux d'échange exagéré. On nous dit que le taux d'échange chargé par ces employés des Sadducéens était 4 ou 5 fois le prix du marché. Un abus terrible. Puis ceux qui venaient de loin pour adorer le Seigneur ont abusé de cela. Les animaux qu'ils vendaient, quand on arrive au temple pour offrir un sacrifice, il fallait que le sacrifice soit sans défaut et sans tâche, oui. Puis le sacrificateur les examinait. Puis on nous dit, c'est Joseph l'historien qui nous dit que presque jamais, si vous apportez votre propre agneau, ça passait jamais. Il y avait toujours quelque chose de pas correct. C'est pas bon. Achetez un ici. Mais oui, mais les agneaux qu'on vendait là, qui étaient agréés, coûtaient 3 ou 4 fois plus cher que les brebis ordinaires. On nous dit qu'environ 25 ans après la mort de Jésus, toute la ville de Jérusalem s'est levée puis s'est révoltée contre les Sadducéens, puis eux aussi ont vidé le temple. Hein? Mais là, on voit pourquoi Jésus s'est mis en colère ici. Et il avait raison, c'était la maison de Dieu, puis c'était des bandits qui abusaient de la bonne foi du peuple de Dieu. Et voilà. À la tombe de Lazare, il n'a pas aimé la réaction des gens. Contre les leaders religieux, quel mot fort qu'il a utilisé contre les pharisiens et les sadducéens dans Matthieu. Hypocrite, sépulcre blanchi. Les mots utilisés dans le grec sont encore plus forts que les mots en français. Jésus était en colère parce qu'il était un homme qui aimait avec un amour parfait. Maintenant, dans nos sociétés occidentales, ça c'est l'Europe, le Canada, les États-Unis, les droits des individus primes, nous sommes très évangélistes et individualistes, et nous exprimons notre colère bien trop ouvertement. Et dans d'autres sociétés où l'emphase est mise sur la famille ou la société, l'État, on supprime souvent la colère, et on dit que les bonnes personnes ne se mettent jamais en colère. Dans la Bible, la colère peut être bien, mais risque d'être destructrice si elle n'est pas bien contrôlée. Troisièmement, si tout cela est vrai, pourquoi est-ce que la colère tourne si souvent mal? Je ne sais pas si je peux dire que j'ai souvent vu quelqu'un se mettre en colère puis le faire comme faux. Plus souvent le contraire. J'aime bien le verset dans Proverbe 24 qui dit « Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. » Voudrais tout tremper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Voyez-vous la vengeance? Souvent, la vengeance et la colère sont étroitement liées ensemble, l'une qui motive l'autre. Et le passage ici nous parle de quelqu'un qui, en colère, se vengerait en portant un faux témoignage contre son prochain. Et je pose la question, comment notre colère devient-elle disproportionnée en relation avec sa cause? Caïn, pas content parce que son offrande était refusée, pas content parce que l'offrande de son frère a été acceptée. Ben, il n'était peut-être pas content, mais ce qu'il a fait en tuant son frère, ce n'est pas, c'est pas une réaction exagérée. Et c'est ça le problème avec la colère. Augustin nous dit que notre plus grand problème est que notre amour est désordonné. Notre amour est tout croche, pour le dire en québécois. Beaucoup de choses dans ce monde sont bien et aimables, nous dit Augustin. Il est correct de les aimer, même de les aimer beaucoup. Mais si nous cherchons le bonheur dans certaines choses au point d'y trouver la sécurité que nous ne pouvons trouver seulement en Dieu, ça va mal. Puis si on applique ça à la colère, on dirait ceci, si la colère valable est une forme d'amour, ce que nous avons dit, la colère qui naît d'un amour désordonné est une colère désordonnée. Et notre colère est souvent toute croche désordonnée de trois façons différentes. Sa cause, ses réactions, puis ses buts, puis nous allons regarder ces trois points-là. C'est quoi les causes de notre colère? Augustin continue, puis il dit ceci. Peut-être que vous croyez en Dieu, mais si l'amour de Dieu est simplement une idée abstraite pour vous, et si vous recherchez la satisfaction et la sécurité dans votre statut, votre réputation et dans l'approbation des autres, vous allez vous mettre en colère rapidement quand quelque chose intervienne entre vous et ce que vous voulez avoir. J'écris souvent, nous nous mettons en colère pour peu de choses. Nous sommes mariés depuis 46 ans, mon épouse et moi, puis moi je suis marié avec une femme presque parfaite. Et des fois je suis impatient, puis elle commence à me dire des choses. Puis, comme beaucoup de femmes, là, elle ne le dit pas rapidement. Passe par différents chemins pour arriver à ce qu'elle veut dire. Puis à un moment donné, je pense que j'ai saisi qu'est-ce qu'elle a à dire, puis je ne suis pas content de ça, puis je me mets en colère, une petite colère, pas une grande colère. Puis quand c'est tout terminé, 35 ans plus tard, ou 30 heures plus tard, dépendant du cas, je me rends compte que j'avais mal compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Je me suis mis en colère parce que j'ai perçu quelque chose qui n'était pas là. Hein? Puis on est comme ça. Ces causes nous mettent en colère pour peu de choses. Et ces réactions. Comment qu'on réagit lorsqu'on est en colère? Mais pour certaines personnes, on se retire. Puis ce n'est pas notre sujet ce soir, puis on pourrait en parler beaucoup. Mais des personnes qui écrasent leur colère puis la gardent en dedans, ce n'est pas mieux. Hein? Ce n'est pas notre sujet ce soir. Nous pouvons nous exprimer avec des paroles blessantes et dures. Nous pouvons nous venger, user des représailles. Nous pouvons insister pour recevoir la justice. Nous pouvons insister que nous avons raison. Je connais une situation familiale en ce moment, des personnes qui sont assez proches de moi, où le frère ne parle plus avec trois de ses sœurs. À cause d'un incident qui est arrivé voilà 7 ans, ce sont des croyantes, chacune très engagée dans leur église locale. Ils vivent dans différentes parties du Québec. Puis, il serait tellement facile de régler le problème. Ils ne se visitent pas. Les parents ne peuvent pas faire une fête. Les parents ont fêté 60 ans de mariage dernièrement. Puis, il fallait fêter deux fois. Une fois avec le fils, puis une fois avec les filles. Parce qu'ils ne voulaient pas être ensemble pour fêter l'anniversaire des parents. Ce serait tellement facile, je pense, si on disait que, puis c'est bien compliqué, là, puis c'est pas grande chose, mais c'est une chose qui est arrivée qui était, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un portrait, hein. On exagère, puis là, on dit d'autres choses, puis on dit d'autres choses, puis là, une petite chose comme ça est devenue ça. Hein. Et c'est bon, moi, j'ai essayé de visiter les membres de la famille pour leur parler, puis j'ai dit, écoute, vous pouvez pas simplement dire, j'ai été blessé, je vous ai blessé, je vous pardonne, nous sommes des frères et des sœurs, nous avons les mêmes parents, nous servons le Seigneur, je vous pardonne. puis excuse-moi de t'avoir blessé moi aussi. Non. J'ai raison, puis ils vont s'excuser, puis ils exigent qu'ils s'excusent. C'est but. C'est quoi le but de la colère? L'amour motivé par l'amour n'attaque jamais la personne, mais le comportement. Oh, chers amis, c'est important ça. L'autre jour, j'étais dans un magasin Grande Surface à Trois-Rivières, puis j'ai vu un enfant qui vraiment n'a pas été correct. Ils ont pris un jouet qui coûte assez cher, puis ils l'ont jeté à terre, puis ils l'ont brisé. Un petit garçon, je dirais, de 6 ans ou 7 ans. Maman s'est choquée. Ça n'a pas de sens. T'es bien niaiseux. On dit pas ça ici en Suisse, t'es bien niaiseux. Hein? T'es stupide. Tu fais toujours ça. Ça, c'est un mauvais mot, ça, toujours. Hein? Tu fais toujours ça. T'es bien stupide. T'es bien cave. Ça, c'est notre expression québécoise. Puis pendant 5 minutes, elle s'est déversée sa colère, puis elle a descendu le petit garçon, puis elle a attaqué sa personne, puis qui il était, plutôt qu'attaquer le comportement. Faisons attention à cela. Notre but, c'est toujours d'attaquer le comportement et non pas la personne elle-même. Et des fois, il faut se calmer pour quelques secondes puis regarder comment on va réagir. J'ai écrit ceci comme une chirurgienne, on doit s'attaquer au cancer, pas au patient. J'ai le grand privilège d'avoir des... Ici, vous pensez que vous dites cailloux sur les reins, c'est ça que vous dites comme ça? Hein? C'est toujours plaisant. Puis heureusement, 3 fois sur 4, elle passe toute seule après 2-3 jours. Mais des fois, je suis obligé de me faire opérer. Et je souhaite quand l'urologue qui va faire l'opération, lorsqu'ils vont m'opérer, puis ils vont enlever la pierre, mais ils ne vont pas m'enlever les intestins, puis l'estomac, puis la jambe gauche, puis vous comprenez, va chercher la pierre, mais laisse les autres choses, s'il vous plaît. Hein. Visez ce qui va mal. Jeune homme de 7 ou 8 ans, j'ai eu l'appendicite, puis on m'a enlevé le... Puis je me souviens, j'ai demandé à ma maman avant d'aller à l'hôpital, est-ce qu'ils vont enlever d'autres choses? Qu'est-ce qu'ils vont enlever? Ils vont tout laisser quelque chose? Hein? J'étais inquiet. Chers amis, il faut vraiment être assez en contrôle de soi quand on se pose la question, puis on dit qu'est-ce que je suis en train, qu'est-ce que je veux accomplir par les paroles que je vais prononcer, par les actions que je vais poser. Dans une colère désordonnée, nous attaquons la personne, pas le problème. Puis voilà les raisons pourquoi la colère vire mal, quand ça pourrait être plutôt une force pour le bien. Parce que nous mettons en colère pas pour les bonnes raisons, parce que nous mettons en colère de la mauvaise façon, et notre but en nous mettant en colère, nous n'accomplissons pas les choses qu'on devrait accomplir. Dernier point, il y a de l'espoir, vous pouvez vous coucher ce soir. Comment le contrôler, la colère? Bien, j'ai quelques suggestions. D'abord, je voudrais suggérer qu'il faut l'admettre. L'une des clés pour être en colère correctement, c'est d'admettre que nous sommes en colère. L'alcoolisme est un problème important au Québec. Et assez souvent dans ma vie, j'ai eu à travailler avec des alcooliques. Souvent, qui sont venus au Seigneur, qui luttaient encore avec l'alcool. Et vu que je viens d'une famille d'alcooliques, où mon père, puis mes frères, puis mes beaux-frères étaient tous alcooliques, j'ai un intérêt pour aider ces personnes-là. Puis éventuellement, je suis venu à comprendre quelque chose. Une personne qui dit qu'il est alcoolique, une personne qui refuse d'admettre qu'il est alcoolique, ne peut jamais être guéri. Jamais. Il est dans le déni. Et la première étape pour résoudre le problème de l'alcool, c'est dire, j'ai un problème, je suis alcoolique. Mon papa buvait 24, en anglais, chopines, en France, au Québec, chopines, c'est quoi ça? Une demi-litre à peu près, des bouteilles de bière, 24 par jour, plus le vin, plus le fort. mais il n'a jamais été alcoolique. Il n'a jamais admis. J'ai un frère qui a des problèmes terribles d'alcool. Il demeure quand même. C'est presque aussi loin pour moi d'aller voir mon frère au Canada que de venir ici. Vancouver, c'est très loin du Québec. Puis, je pense qu'il est mourant, si je comprends. Puis, quand je retourne au Québec, je vais peut-être partir dans un couple de semaines pour aller le voir avant Noël. Puis, lui aussi, il a dit au téléphone l'autre jour, on me dit qu'on veut me faire croire que je suis alcoolique, je ne le suis pas. Si on a un problème de drogue, un autre problème, si on ne veut pas l'admettre, on ne peut jamais recevoir de l'aide, même pas du Seigneur. Alors, si on est alcoolique, il faut l'admettre. Si on est une personne qui se met en colère, il faut l'admettre. Et si nous ne l'admettons pas, nous sommes en déni, et nous, si nous refusons de l'admettre, nous détruisons toute possibilité de réconciliation. Il faut prendre le temps de dire « j'ai un problème ». La colère en déni devient une racine d'amertume. Est-ce que cette expression-là est dans la Bible d'Arby, de racine d'amertume? Je pense que c'est Tim Keller qui le dit comme ceci. Les racines produisent des pousses, et les pousses produisent des arbres, et les arbres produisent des forêts. Et si nous refusons d'admettre notre colère, nous ne réussirons jamais à la contrôler. Deuxièmement, il faut l'admettre, mais deuxièmement, il faut l'analyser. J'aime beaucoup le verset que nous avons lu qui dit « Je ne dis pas, je lui ferai comme il fait, comme il a fait. » Parfois, il faut se parler à soi-même. Le psalmiste fait cela, hein? Il se parle. Des fois, nous avons besoin de regarder le miroir et de se parler à soi-même. Puis dire « Écoute-toi, là. » Il faut se poser la question « Qu'est-ce qui me motive vraiment de ma colère? » Notre colère est souvent produite par des perceptions et pas par ce que les autres nous ont fait vraiment. C'est extrêmement difficile pour moi d'écrire puis de lire cette phrase. Si on est bien honnête, la source de notre colère est souvent notre orgueil. En tout cas, en examinant ce passage depuis environ trois ans et demi, je suis souvent venu à regarder dans ma propre vie puis à être obligé d'admettre que ma colère est occasionnée par l'orgueil plus que d'autres choses. Mais on peut le transformer aussi. Il faut admettre notre colère, il faut l'analyser, puis il faut aussi le transformer. Ce verset, Proverbe 19:19, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. » S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Ce verset-là est très surprenant. En étudiant le livre de Proverbes depuis quelques années, je me suis dit, je vais aussi regarder la littérature des pays qui entouraient la terre promise, l'Égypte, la Babylone, un peu la société acadienne qui a précédé la société hébreu, pour voir leurs proverbes, parce que eux aussi avaient une littérature de sagesse, une sagesse avec des proverbes aussi. Puis même il y a 4 ou 5 des proverbes qu'on trouve exactement presque mot pour mot chez les Égyptiennes. C'est pas surprenant. Salomon était marié avec une femme égyptienne et le Saint-Esprit a décidé que ces paroles-là était vrai, puis il a mis sa sauce sur ses paroles en les mettant, en guidant, en inspirant Salomon de les mettre dans le livre de Proverbes. Et il y a des différences et il y a des ressemblances entre les proverbes des Égyptiennes et Babyloniennes particulièrement et les proverbes de Salomon ici inspirés par le Saint-Esprit. Mais il y a une chose qui est très différente. Vous ne trouverez jamais dans la sagesse de ces nations l'idée qu'on doit faire du bien à ses ennemis. Jamais! Jamais. Complètement absent. D'ailleurs, dans le temps de Jésus, il faut réaliser que pour les pharisiennes, de se venger, c'était une vertu. C'est pour ça que quand Jésus a dit à ses disciples de pardonner, pauvre Pierre, il était tellement surpris. Combien de fois qu'il faut que je pardonne mon frère? 7 fois? Puis Pierre, en disant ça, il dit, sept fois. Puis Jésus dit, vous connaissez l'histoire, et sept fois, 70 fois, c'est ça qu'il a dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Nous transformons notre colère. Nous pouvons décider de faire du bien à celui qui a motivé notre colère. Nous pouvons refuser de répondre à la colère des autres ou d'user des représailles. Dans notre colère bien motivée et bien contrôlée, notre réaction et nos paroles attaquent le problème et non la personne. Notre réaction doit être aider la personne. Un petit mot de témoignage qui a causé une grande lutte dans ma propre vie. Il y a des personnes qui m'ont beaucoup blessé. Des fois, dans le service du Seigneur, les personnes qu'on a plus aidées et pour lesquelles nous avons le plus fait, viennent nous trahir. Puis ça fait mal. Je suis sur un conseil d'administration qui a les fonds pour payer un voyage en Californie dans une grande conférence qui coûte environ 2 000 $ chaque. Puis nous donnons chaque année notre conseil d'administration à 10 personnes qui sont actifs dans l'œuvre au Québec, on paye leur voyage dans une conférence, pour moi, la meilleure conférence dans le monde, une semaine. Puis en plus, c'est en hiver du Québec, puis c'est en Californie, où est-ce qu'il fait beau. Alors, nous divisons, puis on est plusieurs membres sur le conseil, puis on me donne 3. Vous choisissez 3 personnes pour aller avec vous. Puis après avoir lutté, j'ai invité 3 personnes qui m'ont fait très mal. Très, très mal. Quand j'ai appelé une de ces personnes-là, il a pleuré au téléphone. Puis c'est surprenant, la froideur qui existait entre nous aujourd'hui est devenue une chaleur. Il m'appelle de temps en temps. Il y a un autre frère qui, il y a quelques années, qui m'a fait mal, puis j'étais dans une conférence, puis son livre préféré, c'est 1er Jean, les lettres 1er Jean. Puis j'ai trouvé un nouveau commentaire, il lit l'anglais, en anglais, sur 1er Jean, puis il a coûté quand même 30 $, c'est beaucoup d'argent pour moi. Mais j'ai acheté le commentaire, puis je l'ai donné comme cadeau, puis ça l'a aidé à restaurer la relation avec lui. Vous me suivez, là? Et dans notre colère, au lieu de la nourrir, puis il faut apprendre à faire du bien à l'autre. Puis c'est une note difficile. Mais regardez comment le verset se termine. Et l'Éternel te récompensera. Je peux témoigner que c'est vrai. En conclusion, je pense que devant ces luttes dans la vie, parce que c'est vraiment difficile, nous sommes des créatures déchues, nous avons des natures pécheresses. Et ce n'est pas parce qu'on est rendu à 69 ans comme moi que notre nature pécheresse est éradiquée. Il est encore là. Et des fois, c'est caché. Des fois, on n'est pas certain, on ne le voit pas. Mais c'est là. Et nous avons ces luttes-là dans notre vie. Puis devant toute cette genre de lutte dans notre vie, ça fait bien toujours de regarder au Seigneur sur la croix. Jésus est non seulement notre sacrifice qui a payé la dette de notre péché, qui nous a rachetés, qui a permis que sa justice soit imputée à notre compte, qui nous a procuré le pardon et le ciel, mais Jésus est aussi notre exemple. J'ai l'impression que parfois dans nos milieux, en tout cas en Amérique, c'est un peu comme ça, les églises libérales autour de nous, ils présentent Jésus non pas comme le sacrifice contre le péché, mais Jésus est un exemple. Il n'est pas Dieu, mais c'est un bon exemple. Et pas à cause que les églises libérales présentent seulement Jésus comme exemple, on a tendance, c'est le balancier, là, la pendule, va l'autre direction, puis on ignore le fait que Jésus est notre exemple. Puis il est notre exemple. Brièvement, pensons à Jésus sur la croix. Quand nous étions en colère envers Dieu, il ne s'est pas retiré, il n'a pas usé de représailles, il ne s'est pas vengé en se mettant en colère contre nous. Il ne faut pas oublier que la Bible nous dit que nous étions des enfants de colère. Nous étions des enfants de colère. Plus ou moins évidente, selon la personnalité, selon la façon quand est élevé, tout cela. Mais dans le fond, nous étions des enfants de colère. Puis avant de venir au Seigneur, nous étions en colère contre Dieu. Puis lorsque nous étions perdus dans nos péchés, puis des enfants de colère, Dieu ne s'est pas vengé en se mettant en colère contre nous, mais Dieu est allé à la croix. C'était difficile pour moi d'offrir ces voyages, ces conférences à les personnes qui m'ont blessé, mais ça, c'est rien, ça. Pour résoudre le problème de notre colère, il a fallu que la deuxième personne de la Trinité aille sur la croix, qu'il soit rejeté, fouetté, déshonoré, moqué, crucifié, souffrir une mort atroce. Il est allé sur la croix. Puis au lieu de déverser sa colère sur nous, Jésus a accepté que la colère de Dieu soit déversée sur lui. Puis il a prié, Père, pardonne-leur. Bien, j'ai terminé. Ma prière pour moi-même, c'est que j'apprenne à mettre en pratique de plus en plus les quelques idées que j'ai cueillies en étudiant les deux proverbes depuis une couple d'années, trois, quatre ans sur ce sujet-là. Et pour chacun de nous, que le Seigneur touche notre cœur, touche notre vie, nous montre où ça ne va pas, puis nous motive à changer, et par la puissance de sa parole et de son esprit, nous change davantage dans l'image de son Fils Jésus. Nous allons prier. Ô Papa, Père du ciel, nous tournons vers toi, puis nous confessons que nous sommes des pécheurs. Et nous confessons que nous vivons dans un monde, nous faisons partie d'une humanité où la colère a brisé des familles, brisé des nations, brisé des personnes. Et oh Seigneur, parfois la colère a brisé nos propres familles, puis nos propres églises locales, puis nos relations, notre place de travail, toutes ces choses-là. Tu le sais, Seigneur. Tu nous vois. Des fois les autres ne le voient pas, mais toi tu le vois. Tes yeux pénètrent profondément dans notre cœur, dans notre être. Oh Seigneur, on confesse ce que nous sommes, indignes, puis nous tournons vers toi, puis nous demandons, nous te donnons la permission, Seigneur, de travailler dans nos vies, de toucher nos cœurs, de toucher notre colère, notre vengeance. Transforme-nous, Seigneur, dans l'image de ton Fils Jésus, notre Sauveur et notre exemple. Puis protège ton peuple contre la colère, protège nos familles contre notre colère, protège nous-mêmes contre notre colère, Seigneur. Donne-nous à apprendre à contrôler, à regarder de près nos motivations. Puis aide-nous, Seigneur, à pardonner, puis de transformer notre colère pour qu'on puisse faire du bien à ceux qui nous ont blessés. C'est difficile ce qu'on demande, Seigneur, mais on en demande de toi, le Dieu Tout-Puissant, puis on demande ton aide au nom de Jésus. Amen.